Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Ok, bonjour à toutes et à tous. Vous avez remarqué cette magnifique introduction, comme on la suit hein, depuis.
Grosse qualité.
Hein, ça c'est l'effet,
infos.
C'est la faute à la manette, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue dans le 49e. 49e.
Seulement.
Seulement.
C'est
délire. Un jour on sera 499.
490,
et ça va être tellement bien. Donc,
ça fait 10 ans qu'on fait cette émission.
Je suis la faute à la
manette.
Une émission qui sera donc un petit peu différente hein, ce soir, car notre technicien Guillaume nous a lâché. Lâchement.
Ah bah il a le brevet là qui passe.
Il a le brevet des collèges hein, dans quelques jours. Donc effectivement, on pensait que c'était le moment pour lui de le passer. Ça fait 5 ans qu'il le rate. Hein, et cette fois-ci, je crois que ça va peut-être être la bonne. Du coup, on va faire un petit tour de table. Autour de la table, on a un barbu au grand cœur qui nous parlera de ses coups de gueule. C'est Tom. Bonjour Tom.
Bonsoir.
Salut Tom.
Salut Julien. Salut à tous.
Un revenant qui n'apparaît que quand il n'est pas formé par la Poste Sushi.
Mais je travaille plus à la Poste.
Ah c'est
déjà
fini.
Ah c'est bon.
Ah c'est fini.
Ah, bonne nouvelle, on fait ça. Allez,
ouais,
on retourne.
Un petit jazz clap.
Vous allez enfin retrouver votre courrier, ne vous inquiétez pas.
Un grand barbu qui a échappé de peu à la technique, ah, c'est Ferdi.
Trop content.
Ah, t'es trop content.
Ah, trop content.
Tiens, je vis pas trop.
J'allais faire les bouteilles à la bouche. Hein. De toute façon, on va faire les bouteilles à la bouche.
Je pense aussi.
Parce que ça va me manquer.
Notre première caution féminine de l'émission et qui fera la technique, du coup, Gripsy, bonjour.
Allô, moi aussi, Barbe, non pas barbe, mais je fais la technique. Ok.
Tu fais la technique.
Ouais.
Du coup, voilà, tu l'as échappé belle, je pense. Et notre faiseuse de quiz préférée, la seconde caution féminine de l'émission, accessoirement ma femme, donc je suis obligé de dire que du bien.
La meilleure.
Détail.
Donc un petit tonnerre d'applaudissements pour Manon, sinon je ne mange pas ce soir.
On l'aime.
Très bien.
Et surtout, tu es privé de bière pendant un mois.
Oh la vache. En plus, on devait boire.
Je propose qu'on réapplaudisse
un
peu.
Si il y a que de ça dont tu es privé, c'est de l'être gérable.
Aujourd'hui donc, on vous parle de ces débuts de jeux qui nous ont marqués, car le début d'un jeu n'est pas nécessairement gage de qualité. Il peut y avoir un bon début, une très mauvaise fin, une très bonne fin et un très mauvais début. Donc on reviendra sur ces débuts d'aventure marquants, bien sûr. Comme d'habitude, il y aura des news, il y aura Tom qui va se plaindre hein, encore une fois.
Oui.
Je vais vous parler de The Evil Within et de Mario & Luigi Remake, le tout premier
hein, sur
GBA. On va pouvoir en parler tous les deux. Donc je pense que ça va être bon. Est-ce qu'on a de quoi lancer un jingle news? Peut-être pas, rien
non,
ne marche.
Toujours pas, j'espère un peu plus tard.
Alors comment on fait un jingle?
Cette émission est
absolument géniale.
Horrible.
La première news, elle est très très intéressante. C'est le jeu Cuphead. On vous en avait parlé la dernière fois. C'est ce jeu run and gun des années qui nous vient tout droit d'un passé très lointain, qui passe le cap du million en 2 semaines. Ce qui est une très bonne nouvelle pour le studio.
C'est incroyable surtout. C'est ouf.
Le jeu est streamé énormément en plus. Il marche bien. Les gens le regardent. Non, on le sait. Et il est très dur, il est très bien.
Il est horriblement dur
en
fait.
Il est moins dur qu'un Metal Slug au
contraire. Ouais, carrément.
C'est moins dur qu'un contrat qu'un Metal Slug de son époque.
C'est pas si dur que ça.
Du moment qu'on s'est dashé, a priori, ce n'est pas trop.
C'est cool que le jeu arrive.
Ouais, c'est cool surtout une belle récompense. On rappelle hein, que Cuphead, ça a mis quand même 4-5 ans, voire plus à sortir. C'est un boulot de fou de la part des développeurs et ils sont finalement récompensés pour de la qualité, ce qui est de moins en moins le cas, je trouve, dans le monde du jeu vidéo.
Une petite version Switch.
Une petite version Switch, ouais.
Ça serait bien. Ça serait bien pour eux, puis ça serait bien pour tout le monde.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler, ce côté stream, vraiment, qui a été vachement suivi par la communauté, est-ce que ce serait pas aussi un des facteurs, un indicateur du succès du jeu? Est-ce que les streamers, maintenant, ne jouent pas beaucoup sur les ventes, finalement?
Ça dépend des jeux, parce qu'il y a des jeux qui sont agréables à regarder. Bon, perso, je pense que Cuphead, c'est dommage de le regarder et pas de le jouer.
Mais c'est tellement joli que c'est agréable.
Je pense que, par exemple, PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, il n'y aurait pas eu d'autres si bonnes ventes s'il n'y avait pas les streamers.
Ouais. C'est ça, s'il n'y avait pas copain qui invite son copain comme ça, genre
voilà,
équipe,
parce
etc.
Parce que je trouve que là, pour le coup, c'est des jeux que moi perso à y jouer, je trouve ça chiant comme la mort.
Par contre,
visiblement, c'est pas le cas de tout le monde à la
table. Regardez
streamer, jouer
en bande de streamers qui font les
choses,
cons,
voilà.
C'est très fun.
Là, c'est bien.
Regardez des moves et tout, c'est ça aussi qui est intéressant.
Regardez les mecs se suicider en sautant d'un toit,
checker l'équilibre du jeu.
Mourir au bout de 5 minutes à la 99e.
Tuer des gens avec une poêle à frire, c'était la grande note pendant un temps.
Des grands moments.
La deuxième nouvelle qui fera vraiment plaisir à Tom, c'est Life is Strange Before the Storm épisode 2 qui arrive le 19 octobre, c'est-à-dire dans 2 jours.
J'en parlais avant l'émission, je me disais tiens, je me demande si Julien a continué d'y jouer. Et voilà, alors je me permets de vous recommander à tous un youtubeur qui s'appelle Chami, qui a fait une très bonne émission sur une alternative que je vais tester dans une émission prochaine à Life is Strange.
D'accord.
Qui s'appelle Night in the Woods. Qui apparemment serait Life is Strange pour les adultes, selon ses propres mots du youtubeur. Je vais vous dire si le youtubeur était un sac à merde ou pas. Donc,
d'accord.
Voilà. Je vais tester ça et puis je vais voir si je vais pouvoir me plaindre.
Comme Guillaume n'est pas là, est-ce que Chamy est accompagné de Fred ?
Alors non, de French. Voilà.
Ça c'est fait. Guillaume, on pense
merci
à toi.
Merci Guillaume, on pense
Guillaume,
à toi.
Guillaume, tu nous manques. Enfin, non, par contre, il va être déterminant. C'est-à-dire que si celui-là, il n'y a pas d'intrigue, moi j'arrête.
Ah bah,
je pense que le troisième, je le ferai même pas.
Bah, en même temps, ce sera le milieu deux tiers de l'aventure.
Oui, mais c'était lent, quoi. Le premier niveau intrigue, ok, il se passe
rien. Ouais, mais je pense que ça va décoller un petit peu. Là, allez, j'y crois dans deux jours, là. De toute façon,
je teste des choses.
De toute façon, j'ai acheté le Season Pass, donc de toute façon, je suis obligé de faire les trois. Et j'ai fait l'épisode 2 de Batman, la saison 2.
Alors, c'était bien ou pas ?
C'est super bien. Le Joker et Harley Quinn sont enfin introduits un petit peu. Et on s'aperçoit que là, c'est vraiment le Joker au début, quand il n'est pas encore le Joker. Quand il vient juste de sortir de l'asile d'Arkham, où il se fait encore un petit peu manipuler par Harley Quinn. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça change. Ça change de la façon dont on le voit d'habitude. Donc, faites-le. Batman, de toute façon, c'est très bien. Surtout fait par Telltale. Est-ce que vous avez d'autres news avant que j'enchaîne, moi ?
Moi normalement je devrais faire ma news sur Dragon Ball Z Fighter. Ils devaient annoncer deux nouveaux persos, mais ils les ont pas annoncés, donc voilà.
C'était magnifique.
Ah, mais Dragon Ball Fighter, c'est trop bien. Voilà, continue.
Une petite news sur Star Citizen,
si on veut, oui. Alors bientôt la 3.0.
Exactement.
Voilà, on dit ça toutes les deux semaines.
Mais... C'est notre Beyond Good and Evil 2 en fait.
Ouais. On est un petit peu plus sur la 3.0 quand même, parce que les Evocati, les personnes qui sont sélectionnées pour tester les nouvelles mises à jour.
Donc ni Sushi ni moi.
Ni Sushi ni moi, sachant que. Ni Tom et moi, je veux
pourtant,
dire.
Pourtant, on a vendu notre âme. Hein,
ouais, tout à fait.
Visiblement, ça ne suffit pas. Mais voilà, les évocatifs l'ont.
Ils l'ont, c'est disponible, ils l'ont testé, mais ils ne peuvent pas en parler, donc on est toujours au même point.
Voilà. D'accord. Par contre, j'ai une petite news sur Titanfall 2. J'aimerais dire du bien.
Vas-y,
de nouveau,
il est très bien ce jeu, il est très bien.
Il est incroyable. Ils ont sorti un nouveau mode entier, en fait.
Okay.
Un mode Horde, qui est plutôt sympa, un petit peu scénarisé comme le reste du multi. Et donc c'est gratos.
Voilà, c'est ça qu'il faut annoncer.
Tout
ce qu'auront balancé en DLC les mecs de Titanfall 2 est gratuit.
Et voilà, et j'arrête pas à chaque fois de revenir à ce jeu.
Le jeu a un mode histoire trop bien. J'ai fait moi avec un copain.
On rappelle que la campagne est géniale.
Le jeu
multi est trop bien.
Le problème de Titanfall 2, c'est le premier.
Et c'est surtout qu'il est sorti au mauvais moment.
Voilà, c'est où il est sorti.
Non, moi je trouve même pas, parce qu'à la limite, le premier il est passable, mais il a du bon concept.
Ouais, mais.
Moi je me rappelle, genre les 5 premières heures de Titanfall 1, tu kiffes, tu vois.
Oui. Ah,
et du coup, c'est bien d'avoir que t'as une vraie suite, quoi. Tu vois, t'as plus de tout dans la suite, donc finalement, je préfère que le 1 soit comme il est, plutôt que le 1 soit la même chose que le 2.
Il s'était sorti en même temps que quel autre jeu ?
Je sais plus, mais
c'est. Xbox One, que Sunset Overdrive.
Ouais. Non, mais non, ah oui, non, le premier, mais le deuxième, c'était défoncé à cause.
Ah, bah le deuxième, c'était Battlefield.
Battlefield, voilà.
Battlefield BF1, ouais. Il est sorti en même temps.
Concrètement, voilà.
Ouais,
il s'est fait exploser.
Mais en vrai, les ventes sont pas trop mal, apparemment. Il s'est en deçà de ce qu'il voulait, comme le 1, en fait.
Il y aura pas de 3, hein, on le sait. Hein,
Alors là, je suis pas sûr. Je me demande si. Mais dans tous les cas, voilà, beaucoup de contenu gratuit. Là, on a eu plusieurs packs de cartes. Pas genre une carte de temps en temps, mais voilà, des packs. On a eu un nouveau titan. Ça pousse le tout à le total à 9, qui change vachement des anciens. Enfin, c'est voilà, je voudrais
un
vraiment
complet, quoi.
Mettre des pouces vers le haut.
Et il aura peut-être des regains quand il y aura des baisses, c'est genre des Steam, une offre Steam,
sur, tout ça, sur jeu instantané.
Il est aussi sur
l'avoir à 10 balles. Hein.
Il est sur l'EA Access aussi, hein, gratuitement entièrement.
Ah oui, d'accord, oui. Donc oui. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y jouer.
En gros, moi j'avais juste pris un abonnement d'un mois pour 4€, je l'ai fait en entier et c'était très bien.
Mais moi de toute façon, je lui mets 60€ sur 20. Hein. Vous pouvez l'acheter à 60€ et si vous jouez au multi, avoir une super bonne expérience. Sinon, avec juste le solo, je suis à 20 balles.
20€, c'est
la campagne
que
j'avais
faite.
J'ai adoré la campagne.
C'est clair.
Et du coup, ça commence à avoir vraiment du contenu, quoi. Là, c'est plus juste un jeu avec beaucoup de multi comme un Call of, tu vois.
Ouais.
Là, ça commence à être vraiment une grosse expérience. Donc,
Il y a South Park, l'anal du destin qui est sorti aujourd'hui, hein, je crois. Qui a joué au jeu ?
Ah, moi,
ce soir. Pas encore. Ce soir.
Je boycotte un petit peu. Moi.
Ok, alors, justement, on va parler juste du contenu du Season Pass. Alors, on rappelle, hein, pour 30€, hein, c'est quand même la moitié du prix d'un jeu chez Micromania. Donc, pour 30€, vous aurez donc, en décembre, le combat de boss ultime contre Dr. Timothy, qui permettra de débloquer des pièces de costume. Alors, on s'en fout.
Attends,
en 2018, la première extension contre les gothiques. En 2018, l'extension 2 avec une nouvelle classe de héros. 30€. Vous êtes sérieux là ?
C'est
sérieux.
Pas vrai. Ça aurait presque mérité un téléachat finalement.
Ça aurait sûrement mérité un téléachat, je n'ai pas eu le temps.
Est-ce qu'il y a eu des season pass qui étaient plus putassiers que ça ?
Pff,
tous les Call of Duty.
Non, Call of, ça va, mec, il y a 25 heures dedans à chaque fois.
Ouais, les tags d'armes.
Le prix, c'est le prix du jeu.
Non, le prix, c'est ça.
On peut se rappeler des débuts des DLC avec Morrowind et son Horse Pack Armor.
Non, Oblivion.
Oh, Oblivion, pardon, ouais, excuse-moi.
Celui qui a lancé tout.
Ouais, celui qui a tout lancé.
Pas là, je te parle vraiment d'un Season Pass, tu vois. Genre, même Battlefront.
Street Fighter.
Si vous voulez vendre le truc, ou une musique de télé-shopping, ça mettra dans le
monde. Ah bah, vas-y.
Allez-y.
Alors, pour seulement 30 euros, vous aurez une caisse.
C'est mon générique de la dernière fois, d'accord.
Achetez du vent. Un max de vent, comme par exemple du vent gothique, du vent nouvelle classe de héros. Qui est Dr. Timothy? Je croyais connaître South Park. C'est qui Dr. Timothy?
C'est peut-être Dr. K.O., une version...
Dr. Timothy,
c'est
genre...
C'est Timmy en version super-héros méchant.
Non, c'est celui qui a pas un casque en alu et qui fait...
Non, ça c'est professeur. Ça se trouve, c'est Timmy en professeur Xavier, j'en suis sûr. Ça ressemble tellement à ça.
Et du coup, ils ont pas mis de visuel avec, vraiment rien.
J'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. En fait, ça m'a tellement halluciné que.
Moi, je boycotte le jeu parce que c'est la VF en fait. VF belge. Donc c'est un. Faut imaginer un acteur, un mec qui double Cartman mal et qui va essayer de te faire que toutes les références tout le temps. Donc le jeu est très mal doublé. Alors faut savoir qu'il y a aussi une autre. Donc ça commence à baver un petit peu. C'est juste qu'ils voulaient pas les payer au prix qu'ils étaient indiqués parce que pour Ubisoft, il y avait moins de dialogue que prévu. Et ils voulaient pas mettre plus d'argent pour les futurs DLC, etc.
Sérieux? Voilà, juste pour ça?
Oui. Donc, et par contre, il y a plein d'annonces aussi sur internet où il y a encore les marqués VF officiels.
Ah, c'est clair.
Qui n'ont pas été enlevés.
Ah, c'est beau, hein.
Voilà. Donc, ça, c'est beau. Voilà.
C'est comme la mention multijoueur sur No Man's Sky au début.
Oui. Bah, qui n'a pas été enlevée des boîtes de PlayStation 4.
Qui maintenant, du coup, est légitime, mais qui à l'époque, c'est vrai que n'était.
Sur PlayStation 4 aussi?
De quoi?
Sur tous les supports.
Donc je pense que je l'achèterai, hein, mais pas tout de suite. Il y a tellement de jeux là qui sortent ce mois-ci. Moi, je vous parlerai plutôt de The Evil Within tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres news peut-être?
Si on veut parler un peu de gratuit aussi, il y a Fortnite qui propose supplément son Battle Royale
en free to play.
Ça c'est cool.
Du coup, allez sur Twitch si vous voulez vous faire une idée là pour le coup.
Ouais, exactement. Ce qui est bien, c'est que si vous voulez en faire un, si vous avez pas envie d'acheter pour PUBG, achat dans ça, prenez
celui-là. En plus, PUBG, je crois que c'est 30 balles.
C'est 30 balles. Pour un jeu pas fini du tout.
Donc là, vous aurez deux jeux pour le prix d'un.
Un petit free to play, c'est sympa, vous pouvez vous amuser.
Et puis apparemment, il y a du build, c'est ça, dans Fortnite.
Tu construis dans Fortnite, t'as un système, donc t'as deux systèmes différents par rapport à Shazada et les autres. C'est que t'as un système de loot, donc tu peux trouver des armes comme dans Borderlands ou dans Diablo, avec différentes couleurs et différentes puissances.
Ah, ok, d'accord.
Donc t'as des objets rares et tout ça. Et surtout, tu peux, comme dans Fortnite, le jeu de base, tu peux construire. Donc ça veut dire que t'es en pleine partie, tu vas construire des murs, des barricades, tu vas faire des escaliers géants pour aller sur la colline, etc. Donc ça implique tout un côté stratégie différent, parce que tout est destructible très facilement. Donc il y a des vidéos ultra épiques où t'as toute une team qui construit un escalier immense pour aller sur une colline, et t'as des mecs qui tirent au lance-roquettes sur la base, et t'as tout l'escalier qui tombe et qui tue les 4 joueurs. Tu vois, c'est une autre vision du jeu.
Alors, on rappelle pour nos auditeurs qui connaîtraient pas, le mode Battle Royale dans les jeux, c'est arrivé il y a quoi, il y a 2-3 ans maximum.
Oui, c'est ça.
C'est un mode où en fait on commence théoriquement à 100 sur une map.
C'est ça.
Une gigantesque map, et du coup il va y avoir une zone qui se réduit de plus en plus, et donc quand on n'a qu'une seule vie, et donc quand on meurt, on revient directement au menu, et plus on meurt tard, plus on a de points. En fait.
Exactement.
Et donc le but, c'est d'être le dernier survivant.
C'est ça.
Alors Fortnite, c'est pas ce jeu qui coûte 30 euros en early access et qui sera free to play après.
C'est ça.
C'est ça. Ouais. Ok.
Mais par contre, le Battle Royale est gratuit.
Voilà, le mode Battle Royale,
d'accord,
c'est vraiment gratuit. C'est un free to play pur, mais il est donc déjà créé en tant que free to play.
J'avais envie de tester le concept, mais j'avais pas envie de payer 30 euros pour PUBG.
Prends Fortnite en free to play.
C'est le même moteur graphique que PUBG. Hein.
D'accord.
Bon, c'est ce qui a créé des conflits en plus. Hein.
Oui,
c'était rigolo à voir.
Ça marche. C'est bon pour les news ?
C'est bon pour
les news. Je crois qu'on va mettre ton générique Tom Sushi. Hein. Ce sera très bien.
Allons-y.
Ce soir, c'est deux reporters.
Je me sens
de
seul.
attends. Là, il a investi 1000 euros dans un vaisseau dont le jeu ne sortira jamais, et l'autre, il a acheté un Mac plutôt qu'un PC. Et vous me dites qu'ils vont présenter un jeu.
Exactement. Ce soir, ces deux reporters de l'extrême vont vous présenter un jeu de l'extrême dans Two Guys One Game.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ah Ah, vraiment, on ne s'en lasse pas. Hein. Personnellement, je ne m'en lasse jamais.
Re-regardez Cowboy Bebop après l'émission.
Alors, Tom, tu n'as pas aimé un jeu cette semaine, pour changer un petit peu.
Quel est le jeu que tu n'as pas aimé cette semaine? Alors, cette semaine, je n'ai pas aimé.
Alors, ce qui est bien, c'est que pour une fois, c'est pas un jeu que tout le monde aime.
C'est vrai.
Oui,
c'est vrai. T'as fait des efforts, c'est bien, Tom.
Je vais vous parler de The Surge, qui est un jeu qui a. Bon, j'ai un petit peu de retard, parce que je crois qu'il est sorti il y a quelque chose comme 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça.
C'est au moins un moment, il est sorti cet été. Il est sorti cet été.
Et c'est un Dark Souls-like. Alors bon, évidemment, j'adore Dark Souls, mais celui-là est un mauvais Dark Souls-like. Je voulais en parler parce qu'aujourd'hui, on va parler des débuts de jeu. Et le début de The Surge est excellent.
Effectivement.
Est un Dark Souls-like, mais plus dans le futur, à base d'exosquelettes. Et donc, forcément, voilà, vous commencez à vous faire des idées de ce qui va être possible dans le jeu ou pas.
Et d'ouvriers,
voilà. Et en fait, ça se passe dans une gigantesque manufacture, une entreprise qui s'appelle Créo. Et le jeu commence dans le train qui nous amène là-bas, et on nous explique que voilà, les exosquelettes, c'est vraiment la vie, et que même si l'entreprise a l'air d'être la plus cliché des entreprises de méchants, non, Créo, c'est vraiment un truc de gentil, et on va refaire l'environnement, et tout va aller bien. Et la caméra recule un petit peu, et là, ah, on se rend compte qu'on est en fauteuil roulant.
Ouais.
Et donc on peut se déplacer, on a le début du jeu où on se déplace en fauteuil roulant.
Et ça c'est trop classe.
Et
ça, c'est
super bonne caractérisation, très ciné.
Et c'est surtout quelque chose d'unique parce que vous ne jouez pas de personnes en fauteuil roulant dans les jeux vidéo.
C'est très rare depuis Killer 7.
Voilà.
C'est très rare.
Alors que bah voilà, le personnage principal a pas parlé, il y a personne d'autre qui est dans le train avec nous. Et du coup on a déjà une caractérisation genre ah ok, le perso, même si on sait pourquoi est-ce qu'il vient dans cette entreprise qui a l'air méchante. Et on a déjà un perso qui veut dire quelque chose, donc super super cool. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, changement de ton total, on va donc pour avoir notre exosquelette qui va nous améliorer et nous permettre de marcher, et on a une petite cinématique qui est carrément genre torture porn à l'assaut, où on voit en fait l'exosquelette nous être implanté à notre personnage, hein, qu'on ne créait pas, c'est ce mec là et pas un autre, sans anesthésie.
Donc, les conventions de Genève, tout ça, voilà, le code du travail.
Bon, ok, on comprend rien.
C'est un peu le futur.
On se croirait en Chine, c'est marrant.
Ouais, un petit peu, ouais. Fade to black, et on se réveille dans un dépotoir. L'entreprise a l'air d'avoir complètement explosé. Et voilà, Wasteland apocalyptique, on se met à taper des robots. Encore changement de ton, genre vas-y, maintenant si tu tapes, CR1 pour taper, comme dans Dark Souls, vas-y, attaque. Très très bizarre comme intro, et à partir de là, le jeu est une descente aux enfers de nullité. J'ai trouvé ça aberrant. Le système de combat est pourtant assez cool, puisqu'en fait, il marche sur les démembrements. Vous allez me dire comme dans Dead Space, mais en fait, non.
Non.
Imaginez donc système de combat de Dark Souls, vous loquez les ennemis, on a, au lieu d'avoir légère et lourde, on a vertical horizontal comme coup. Et en fait, on peut viser une partie du corps d'un ennemi, et si on lui fait assez de dégâts, le démembrer. Et du coup, vous le voyez venir, vu que les ennemis ont aussi des exosquelettes, on se dit genre pas mal ta jambe, on la prend et chut, on se la met. On se la met, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est comme ça, par exemple, qu'on récupère les armes aux ennemis, bah on leur coupe le bras, chut, on met l'arme, clac, on la prend, on la met sur nous. Donc c'est plutôt cool.
C'est des bonnes idées. C'est cohérent avec l'univers.
Et du coup, vu que de là où j'en suis de l'histoire, je suis à peu près aux deux tiers du jeu, ça part vers un très classique homme et machine qui fusionnent. Wow. Voilà, c'est plutôt dans le thème. C'est pas mal, mais...
C'est presque érotique,
mais le level design est immonde. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire comme Dark Souls, c'est-à-dire avec des checkpoints dont on revient,
comme sur lesquels on
revient, les feux de camp, sauf qu'il y en a un par niveau. Et le jeu comprend 7 niveaux, donc il n'y a que 7 feux de camp dans tout le jeu. Et du coup, la difficulté ne vient pas tant du fait que les checkpoints, enfin, on revient au checkpoint que de façon trop espacée. C'est pas vous allez jouer une heure et avoir qu'un seul checkpoint. Non, c'est qu'on est perdu dans tous les niveaux. J'ai pas fait, et pourtant, j'ai fait les 3 Dark Souls et Demon's Souls. Donc, normalement, dans un labyrinthe, je commence à m'y connaître. Là, j'étais perdu, je suis donc.
Contrairement aux Dark Souls qui ont l'intelligence de mettre des éléments de décor visuels qui sont très cohérents, la tour avec le dragon, etc., des éléments qui te... T'as pas besoin de savoir où t'es, tu vois l'élément. Là, il y en a pratiquement aucun. Ça veut dire que t'as l'impression d'être dans des décors un peu
Moi, je trouve que ça va. Au fur et à mesure des niveaux, là, je suis au niveau 5 et j'ai eu quand même des niveaux qui ne ressemblaient pas trop.
C'est la base.
Le problème, c'est que vu que tout revient au même feu, enfin, au même. À la même baie médicale, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller dans un couloir. Vous allez tomber sur 4 portes fermées, vous allez faire un bout de niveau, puis vous allez revenir sur une porte fermée, vous allez ouvrir la porte fermée de l'autre côté, vous allez dire « Ah ok, je suis là !» Puis après, vous allez ressortir la baie médicale, vous faire « Ah, alors, du coup, il faut que j'aille à cette porte-là » Après, vous allez rouvrir une autre porte, vous allez faire « Alors attendez, du coup, maintenant, j'ai 3 portes à ouvrir, ah ok, c'était celle-là » Et on est perdu, mais complètement perdu, donc c'est aberrant, vraiment. Je comprends pas comment ils se sont dit « On va perdre le joueur tout le temps !» Alors qu'en plus il y a une variété d'ennemis qui est très pauvre, donc du coup on n'a même pas le côté genre ah ok je vais revenir, je sais que c'était là par exemple où il y avait les chiens ou dans la Dark Souls, genre je vais pas du côté des squelettes, voilà. Non, là, c'est un mec avec une exo-armure.
D'accord.
Très, très bizarre. D'autant plus, le jeu n'est pas très poli, puisqu'il a le même système de perte d'âme comme dans Dark Souls. C'est-à-dire que quand on perd, on doit revenir sur son cadavre. Ce qui
c'est quoi déjà qu'on doit trouver des boulons?
Des boulons, ouais, globalement, c'est à la Megaran. c'est des pièces détachées.
Clank, c'est ça.
Qui, pareil, servent à améliorer et son perso et son exo-armure. Et du coup, là, ils se sont dit, mais si on était moins intelligent, si on mettait un timer. C'est-à-dire que vous devrez revenir à votre cadavre en moins de 2:30. C'est 2:30 le timer. Et si vous tuez des ennemis, ça revient. Vous avez un petit peu de temps en plus. Et du coup, c'est aberrant parce que.
C'est pas logique.
En fait, vous pouvez pas revenir.
C'est pas très logique.
Tu perds plus de temps à tuer des ennemis,
voilà,
j'imagine.
Tu perds plus de temps à tuer des ennemis.
Du coup, tu dois trouver l'équilibre entre tuer des ennemis
et
courir en
même
temps.
C'est exactement ça. Mais toi, t'as envie de repartir assez vite. Et du coup, dans Dark Souls, quand on a fait plusieurs et que tu connais bien, tu sprintes à travers les ennemis.
Ouais.
Mais là, tu peux pas. Il faut que tu les tues parce que sinon, t'auras pas assez de temps pour revenir sur les trucs. Horrible. Vraiment horrible. Et en fait, ils ont pris tous les trucs de Dark Souls, mais ils les ont un tout petit peu modifiés et ils les ont rendus nuls. Par exemple, quand on part dans ce jeu, on peut pas se déplacer. On peut pas se déplacer en parant. Si tu pars, t'es bloqué, t'as les pieds crampés au sol et tu peux plus bouger. Et du coup, c'est hyper bizarre parce que finalement, quand t'es habitué à Dark Souls, au début, tu te dis ah ok, du coup, je vais esquiver. C'est peut-être plus un jeu qui est basé sur l'esquive comme Bloodborne. Non, c'est un jeu qui est basé sur la parade.
D'accord.
C'est exécrable, vraiment horrible. Je n'arrive
du
pas
coup,
à jouer.
Ce que j'aime bien avec toi, Tom, c'est ta persistance. Ah, bah, visiblement, tu détestes le jeu, tu
et
en es déjà
au deux tiers
et tu continues à y jouer. Ça, j'adore.
Toujours.
Ça,
donc j'adore. Voilà, je vais essayer de le finir pour vous dire si j'ai fini par aimer. Mais
d'accord,
pour l'instant, je vomis ce jeu. Je suis à un boss qui est insupportable. C'est trois fois la même phase de boss. Donc c'est le quatrième boss du jeu, entrecoupé du premier boss. D'ailleurs,
coup,
vous faire phase 1, quatrième boss. Premier boss, phase 2, quatrième boss.
Du coup, t'es capable de nous le dire si c'est juste un énorme pot de sel ce jeu ou c'est la difficulté qu'ils ont monté d'un cran par rapport à Dark Souls?
C'est pas beaucoup plus dur que Dark Souls.
C'est simplement, ils ont fait les mécaniques à la con.
Je pense que c'est les mécaniques qui sont à la con. Parce que j'avance quand même. J'avance plus frustré, mais j'avance.
Pur pot de sel.
Alors, quelle note tu lui donnerais du coup?
Alors,
au final,
je lui donne 10€.
10€ sur 60. D'accord.
Voilà, un je lui bon donne 10 balles sur 60.
C'est pour l'intro, pour jouer un handicapé.
Pour l'intro. Et par contre, vraiment, l'intro est excellente. Et c'est ça qui m'a énervé, c'est que j'ai commencé le jeu avec un pote. Et. Au début, quand il est parti du coup de chez moi, on avait fait les deux premières heures, quoi. On était là, genre yes, on était saucés, quand on était là, putain, c'est cool, c'est un peu différent de Dark Souls et tout. Et quand il est revenu la fois d'après, il était là, genre alors, toujours bien et tout. Je dis, non, c'est horrible, faut plus jamais jouer. Donc voilà.
Ok, très bien. Du coup, je vais vous parler vite fait de Vie Evil Within 2, donc qui est la suite de Vie Evil Within. Oh, c'est incroyable. Le premier, lornit clairement du côté d'un de mes jeux préférés, Resident Evil 4, que vous connaissez tous ici à force, fait par Shinji Mikami.
C'est quoi?
Je comprends pas.
Ouais, bon, c'est un petit jeu qui est sorti et qui a juste révolutionné le monde de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, tout simplement.
Là où on sait que ça te fait du bien de le dire, donc on fait ça exprès.
Là où le premier lornit du coup du côté de Resident Evil 4 et du côté un petit peu plus action de Resident Evil, le deuxième prend un petit peu son temps pour raconter les choses et ressemble vachement plus à un Silent Hill. Du coup, il lorne plutôt du côté Silent Hill et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un. Le héros, c'est Sebastian Castellanos.
Le
même que le 1, effectivement. Et cette fois, on s'intéresse plus à lui et à sa famille. Voilà. L'intro débute dans sa maison. On voit sa femme, sa fille. Voilà, il se passe tous les événements du premier quand il se retrouve enfermé dans
l'animus.
Dans le fameux...
dans l'animus des ténèbres.
Dans l'animus des ténèbres. Et il apprend effectivement que sa fille n'est pas morte et sert de catalyseur dans un animus 2.0.
voilà.
Du coup, tu vas volontairement dans l'animus 2.0 et cette fois, tu es face à un monde ouvert. Voilà.
Ah.
Pour un survival horror, un semi-monde ouvert même, on pourrait dire.
Donc finalement comme les rues de Silent Hill, c'est ça?
Ouais, exactement. Okay. C'est exactement comme les rues de Silent Hill, t'as des quartiers un peu plus dangereux, des petites choses à récupérer à droite à gauche. C'est très bien foutu et même l'esthétique générale, tu combats en gros le méchant de cette histoire, c'est un photographe fou, un photographe tueur qui arrive à tuer des gens et à les immortaliser dans un espèce de cube dans lequel tu peux rentrer et donc tu les vois pile au moment où ils sont en train de mourir dans une gerbe de sang hyper artistique.
C'est génial ça.
Donc vraiment tout ce côté Silent Hill avec des monstres vraiment qui font vraiment penser à Silent Hill. Par exemple un espèce de monstre hyper difforme avec trois jambes et un gros appareil photo en guise de tête qui te suit partout, qui rentre au plafond, qui fait des bruits horribles. Ce jeu est magnifique. Il a une direction artistique de fou. Je Bon, de toute façon, j'adorais le premier. Oui, je ne suis pas spécialement objectif. Et honnêtement, pour le prix qui coûte sur PC, je l'ai eu à 28 euros hein, à sa sortie. Je pense que ce sera le survival horror de la rentrée. Et sûrement,
il faut pas oublier que c'est aussi donc c'est Bethesda qui l'a sorti, qui l'avait annoncé il y a 6 mois, même pas.
Il y a 6 mois, ouais. Alors j'en suis, on va dire, au tiers du jeu. Premier tiers du jeu. Oui. C'est plutôt bien pour l'instant et je pense que ça va continuer. En gros, tu as des grosses zones en monde semi-ouvert et tu passes dans un espèce de petit hub à chaque fois et dans d'autres zones semi-ouvertes et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Mais voilà, tout est bien équilibré, tout est bien foutu. Enfin, moi j'adore. Est-ce que t'as peut-être des questions, Ferdi? Je vois que tu me regardes.
Est-ce que ça a un lien avec le premier ou pas?
Complètement. D'accord. Complètement. On fait tout le temps référence au premier.
Il faut avoir fait le premier, donc.
Pour l'histoire, non. Tu passes vraiment d'accord. À côté. Il y fait référence, t'as des petits clins d'œil, mais rien d'indispensable. Ils ont bien vu que les ventes du premier étaient pas folles.
De toute façon, le premier, le scénar, finalement, à la fin, il sort. Et puis voilà, c'est pas grand chose.
Tout simplement. Ouais. Ça fait un petit peu le lien, je crois, avec les DLC du premier que je n'ai pas fait.
D'ailleurs, du coup, question pour de mon côté. Un petit truc que je reprochais à The Evil Within, le premier, que j'aime pourtant beaucoup, c'est que finalement, c'était une aventure où on était vraiment balancé d'événements en événements sans trop comprendre, en fait, jusqu'à la fin. Et bon, c'était très voulu, en fait, hein, qu'on soit un peu brinque-ballé d'aventure en aventure. Mm-hmm. Mais du coup, je trouvais que le ton était assez spécial. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours ce parti pris qui vont plaire à certains et pas à d'autres? Ou est-ce que là, ils ont changé un petit peu?
Justement, non. C'est justement l'intérêt de ces mondes semi-ouverts. C'est que tu passes vraiment d'un endroit à un autre. Souvent, tu suis ce qu'ils appellent des résiliences. C'est-à-dire, t'allumes ta radio et t'entends des cris qui sont à, je sais pas, 200 mètres, 250 mètres. Tu suis les cris. Et généralement, t'arrives dans un endroit assez bizarre, mais ça a une continuité. T'as une église.
On sait un peu plus ce qu'on fait, quoi.
Tu sais un peu plus ce que tu fais et tu vois que le monde autour de toi est en train de mourir. Vraiment, c'est un monde en décomposition. T'as des trucs qui flottent dans les airs. Enfin, c'est super bizarre, mais en tout cas, il y a une espèce de cohérence en fait entre tout ce bordel finalement.
Ok, ouais, ça c'est cool. Et ton avis du coup entre celui-là et le R7? Est-ce que c'est vraiment pas le même genre de jeu? Est-ce que par exemple pour quelqu'un qui aime les jeux d'horreur, est-ce qu'il va être content des deux? Est-ce que plus un jeu, je sais pas, quelqu'un qui aime plus les jeux d'action, tu lui conseilles lequel?
Resident Evil sans. On l'avait fait à FR10, c'est vraiment un moitié jeu d'action, moitié jeu d'horreur, donc c'est très bien. Ouais. Là, si t'as envie de retrouver l'ambiance Silent Hill qu'on a perdu depuis très longtemps, j'aime beaucoup en tout cas. Okay. À jouer vraiment dans le noir avec un casque et vraiment être concentré à fond et
Autant d'action ou plus d'action que dans le 1? Parce que le premier était quand même vachement action finalement. Je sais qu'on trouvait.
On va dire à peu près équivalent, un peu moins.
Un petit peu moins.
Un peu moins parce qu'il y a beaucoup de phases d'exploration, beaucoup de moments où tu recherches des choses. Donc t'as des moments de calme et t'as des moments scénarisés derrière. Ouais. Donc voilà, tout simplement.
Et donc toi, tu lui mets quelle note?
Je l'ai payé 28 euros. Je pense qu'il en valait au moins 45.
45 euros. Ouais. Ah ouais. Ouais. 45 euros sur 28.
Bonne note. 45 euros sur 28, ce qui est une très bonne note à l'heure actuelle. Vite fait, un petit mot sur Mario et Luigi. T'as fait le début, c'est
J'ai fait le début, oui. Beaucoup d'amour pour ce jeu que j'avais, on va dire, survolé sur GBA.
C'est une réédition du jeu de 2002 hein, sur GBA. C'est la réédition du premier.
Voilà. D'accord, c'est ça. Voilà. Et c'est disponible sur
3DS.
Encore en digital?
Non, en boîte.
En boîte avec le jeu dedans.
Avec un DLC en plus.
Si vous ne comprenez pas, regardez les boîtes en carton de la dernière émission.
Avec un DLC en plus qui est le
Spire de Bowser.
Spire de Bowser que je n'ai pas commencé encore, qui a l'air très sympa, qui est un jeu de stratégie. C'est toujours le même jeu hein, que depuis 2002. Il est très bien.
Très
il
bien.
A toujours
c'est
été
une très bonne
bien.
Saga.
C'est toujours très bien. Donc voilà, si vous voulez revenir au début de la saga quand c'était pas encore essoufflé, finalement, foncez. Je le trouve un petit peu cher quand même. Pour un jeu qui est sorti en 2002, il est quand même encore.
30 euros, je l'ai eu à sa sortie.
Je trouve ça un petit peu cher encore.
Il est moins cher que la version GBA.
Ouais.
Par contre, alors les graphismes du jeu ont été rechangés. Au début, c'est marrant sur les trailers. Je sais pas si toi, mais moi, je croyais que c'était de la 3D. En fait, non, c'est de la 2D.
Oui, c'est comme les derniers épisodes.
Et j'ai trouvé ça surprenant en fait. Vraiment, les trailers, j'avais l'impression que c'est de la 3D. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont un petit peu enlevé le ton pastel pour prendre un ton un peu plus à la Mario qu'on connaît.
Ouais.
Alors que l'original avait vraiment des teintes douces. Et voilà. Pour moi, là-dessus, c'est un peu plus criard, particulièrement au début. Je sais qu'on est sur une zone avec des étoiles qui tombent du ciel et le sol est violet, mais violet fluo. Alors que dans l'original, j'avais pas souvenir que ça me pète les yeux comme ça.
Par rapport à la 3DS, en fait.
Peut-être. Alors, il y a pas de 3D sur ce jeu-là. La 3D ne fait rien.
Ah bon?
Ouais,
sur la 3D, pas activé. Donc,
ça, c'est une question pour les possesseurs 3DS. Est-ce qu'il y a encore des jeux avec la 3D qui sont.
Non. Alors, il y a juste Mario 3D Land que j'ai fait il y a pas longtemps qui est très bien.
Ouais, mais il y a plus vraiment, c'est plus vraiment. Ils le mettent plus en avant.
Ouais, non. Le dernier, ça va être Bravely Default, qui est une 3D quasi indispensable, qui est vraiment excellente. Là, j'ai testé le dernier Fire Emblem en date. Pas Fate.
Ah oui.
Voilà, celui du remake du 2, quoi. Et la 3D est mal réglée.
Ah, c'est vrai.
Ça casse.
Je suis d'accord.
Ok, donc c'est toujours. C'est pas.
Voilà, ils ont ça. Mais ça a toujours été un gimmick.
Oui, mais bon, c'était. Au début, ils essayaient de dire que ça allait être une révolution, qu'on allait en manger, etc.
Ah, c'est vrai que pour le coup, la 3D sans lunettes, c'est quand même cool. Ça.
Ouais. C'est clair. Bah voilà, je crois qu'on va s'en tenir là. Je crois qu'on a même pas de jingle hein, pour annoncer le.
Bah non.
Bah oui, comme d'habitude.
Rien. Bah non, mais c'est une intro, tu veux mettre quoi comme jingle d'intro?
On peut mettre le générique qu'on met d'habitude. Ah, voilà. Comme on l'a pas eu à l'entrée, on l'aura maintenant. Et ça,
faute à la manette. Non,
c'est pas ça. Épisode 400 000.
400 000. Donc, on va parler des débuts de jeux vidéo qui nous ont marqués. Comme d'habitude, je vais faire un tour de table en commençant. J'ai envie de commencer par toi, Sushi. Je ne sais pas pourquoi. Et je savais que ça allait t'embêter.
Eh mince. Eh allez, ben, je n'ai aucun souvenir.
On va te laisser réfléchir un petit peu.
Aucun souvenir de jeux vidéo. Je m'en vais.
Qu'est-ce que je fais ici?
J'ai de l'amnésie. Je crois que je commence un jeu.
Alors du coup, qui veut commencer?
Non mais moi j'y vais.
Allez, vas-y.
Alors moi une grande, hein, on va commencer par une intro simple que tout le monde a fait, c'est l'intro de Last of Us.
Ok.
Voilà, qui commence, on commence le début de l'épidémie, enfin même dans la maison, avec la télé, on joue la fille, on croit qu'on va s'y attacher, etc. On joue la fille de Joël, on croit qu'on va s'y attacher.
Pourquoi on croit que... Et tu serais pas en train de spoiler?
Oui, bah ça va, c'est une info.
tu veux dire qu'elle meurt?
Voilà.
Quoi?
Et l'intro est folle.
T'es en train de spoiler un jeu qui a 5 ans?
C'est ça, quoi. L'intro est folle, on a le début d'épidémie à la télé, à travers la fenêtre, petit à petit.
Ah, c'est cool,
le premier zombie qui débarque.
Jamais joué à jeu.
On joue Joël, on est dans la voiture, on voit l'épidémie à travers les vitres, on voit... Après, il y a une phase à pied avec une ville qui explose, enfin, c'est... Folie. L'intro de Last of Us, moi, m'a mis une claque parce que je m'attendais vraiment à pas jouer ça du tout.
Alors, par jouer, t'entends quoi? Parce qu'en fait, tu la joues pas. Tu t'avances.
Ouais.
Mais tu t'avances pas du jeu. C'est un très bon film. Mais
oui, mais ce que je veux dire, c'est que je m'attendais pas. Moi, je m'attendais directement à commencer dans l'univers là. Et c'est une des meilleures intros pour moi pour caractériser un personnage parce que c'est Joël. Je spoil, hein. Perd sa fille, waouh! Et voilà, et donc.
T'as spoilé les 20 premières minutes de jeu.
Même pas les 15 premières.
C'est comme si t'avais spoilé Seven, quoi, tu vois.
C'est ça.
Et donc, un spoil, c'est tout le temps.
Ouais. C'est tout le temps. Je sais pas. Dans les jeux, c'est pas pareil parce que.
Ah, si, générationnel.
Moi, je trouve que dans les films, c'est tout le temps, mais dans les jeux, je dirais que ça dépend parce que tu vois, il y a des jeux où ça est devenu tellement iconique que si tu joueras plus, tu vois. Il y a si je te spoil un jeu de PS1, il y a peu de chances que tu le joues, que tu rebranches ta PS1 exprès pour
jouer. Alors,
je le fais vraiment alors.
J'en connais.
Ce soir, je la branche.
Donc, c'est fini. Bon, ne vous attachez pas à Aerys dans Final Fantasy VII.
C'est bon. C'est chaud.
Non, voilà, moi, l'intro, ça, c'est une des intros récentes qui m'a le plus. Voilà. Qui m'a plus foutu une claque. Parce que tout est bien en fait, on s'attache. La caractérisation du personnage de Joël est très bien faite.
Ouais.
Le type d'épidémie, on comprend que c'était une vraie catastrophe. C'est pour ça que quand le jeu après s'ouvre sur le monde plus tard, avec les militaires qui contrôlent tout, on comprend pourquoi, etc.
Voilà. D'accord.
Donc j'ai trouvé très impressionnant.
Ok. Gripsy, je crois que tu avais vraiment beaucoup de choses à nous raconter sur les intros.
Ouais, mais c'est pas du tout du récent, hein, pour moi.
C'est pas grave, c'est pas grave, moi non plus.
Contrairement à vous qui parlez des choses récentes, moi je vais parler plutôt aux petits joueurs, aux petites joueuses qui sont occasionnels comme moi, qui sont discount et qui arrivent donc 10 ans plus tard. Donc je suis pas une grande gameuse, hein. hardcore par contre, ça y a pas de souci, mais il y a un truc qui fonctionne à coup sûr avec moi pour un rancard au cinéma ou pour une soirée à appuyer sur ma manette, ce sont les ambiances glauques.
J'aime pas ça.
Voilà, ça va l'ambiance glauque. Je suis pas toute seule.
Ah bah Radio Campus avec 4 barbus autour d'une table.
Ouais, c'est vrai.
On dirait le début d'un très mauvais.
Non, attendez, c'est pas ce que je voulais dire. Pas le genre d'ambiance que de nombreux humains et d'actualité, hein, on parle de genre féminin qui se tape quotidiennement d'une société qui cautionne le surnom en ce moment, hein, des trucs pas cool. Ben, né, j'ai pas envie de sentir des dizaines de mains moites glisser sur moi, alors je préviens, je prends l'option pelle en acier à deux mains et glock à la ceinture.
Oh.
En matière de mains moites, mais aussi sèches qui pèlent des morceaux de chair et qui coming to get you. Je vais vous parler de mes premiers émois en matière de jeux vidéo survival horror, mais pas que.
Donc là,
on remonte à plus de 10 ans, c'est un peu comme les Silent Hill, on remonte. Hein. Alors je vais pas être très original, je l'ai dit, et je vais commencer avec les intros plutôt zombies.
Yeah,
fais-toi plaisir. Zombies.
L'incontournable série Resident Evil de Capcom, par exemple, au hasard, qui a fait les beaux jours de Sonic, sans le Notre Père Romero, hélas. Mais avec en 96 cette incroyable intro tournée en version live pour un côté Dog Soldiers qui ne lésinait pas sur le gore cheap.
Alors
à noter que Barry les acteurs Burton et actrices dès en arrivant ne sont crédités à la fin que sous la forme de prénom ou surnom. Faut aller jusqu'au bout.
Oh, tu m'étonnes.
Il faudra chercher un peu dans les internets pour apprendre que Chris Redfield était interprété par Scott McCulloch, que Jill Valentine l'était par Una Kavanagh et que Albert Wesker l'était par Sergio Jones Alarcon.
Merci.
Vous le saurez désormais.
Merci encore les gars parce que vous nous avez fait vraiment du bien.
Chris Redfield, Jill Valentine.
Alors,
le plus
beau,
c'était l'annonce censurée quand même, ouais.
Une intro, ouais, avec la tête, mais une intro de 4 minutes. Un court-métrage, quoi. Pour voir les forces armées de l'équipe du Stars qui débarquaient. Bah, ça mettait dans un bain de stress, hein. Secte apocalyptique, animaux tueurs monstrueux, concert des Bee Gees, accident industriel, zombie en goguette. Alors, il y a Resident Evil 2 aussi. J'arrivais pas à choisir entre les deux. L'entrée est plus classique en animation, hein, pour le coup, avec des explosions, feux de voiture, cadavres gémissants surgissant de partout. Mais ça foutait quand même bien la pression de fermer la porte derrière toi, genre. Et je sais pas si j'ai connu une émotion aussi forte avant. Bah, j'ai pensé à Space Channel 5, mais ça n'a rien à
c'est
voir.
C'est très bien Space Channel 5.
Ça m'a fait peur, mais d'une autre manière. Je sais pas quand vous avez découvert la saga et à quel âge, et si vous avez joué aux originals ou si vous avez joué aux versions remasterisées, mais je me demande si ça marche encore, ces intros-là.
Alors
Julien, toi, tu les as tous...
On peut faire un tour. Vous avez commencé par quel Resident Evil? On peut
Resident Evil 1 sur Saturn.
D'accord. Okay.
Resident Evil 4.
Très bien.
Tout premier.
Je m'en souviens plus.
T'en souviens plus?
Non, pas du tout.
Alors moi, j'ai commencé direct, ça va vous étonner, mais par le premier, mais sur GameCube.
C'est
finalement, master. J'ai commencé directement avec le bon point d'entrée.
Ah, je crois que c'est lui, alors.
Ouais. Ce qu'on appelle le Rebirth. Le Rebirth.
Ah oui, non, c'est pas zéro. Zéro, c'est dans le train.
Zéro, c'est dans le train, ouais.
En intro de jeu d'horreur... Qu'est-ce que t'as pensé de l'intro de Dead Space, qui est quand même super trop bien.
J'étais en train de m'en souvenir,
qui est quand même incroyable. Alors pour nos auditeurs, Dead Space commence donc à la fin d'un voyage spatial. On va aller réparer un vaisseau. On est juste un technicien.
Ah bah mais Isaac, un bon vieux technicien.
La suite va vous étonner. Tout ne va pas se passer comme prévu.
La quatrième minute va vous faire peur.
La quatrième minute m'a fait vraiment sursauter.
Ouais,
et, c'était vraiment une intro hyper hyper cool. On avait vraiment une caractérisation de des personnages assez rapides, mais surtout la présentation du perso principal, le vaisseau, l'Ishimura, qu'on voyait de loin et dans lequel on va passer en fait tout le jeu. Mmh, et oui. C'était une des seules fois où on le voit vraiment de l'extérieur. C'était hyper anxiogène dès le départ. Super, super cool.
Tellement cinématographique. Moi, ce que je veux dire, un truc bizarre, c'est la tenue de... dans son prénom...
Isaac.
Voilà. Quand elle se dresse sur sa nuque...
Oui.
Ah ouais.
En fait, j'ai vu des... J'ai vu des CRS essayer ce genre de tenue.
C'est vrai, trop cool.
Et du coup, je me suis dit... Est-ce que le designer de ce genre de tenue s'est inspiré, lui aussi, de ce jeu? Je te promets, il manquait que la lumière, mais par contre, il y avait le côté mi-tenue de moto, mi-vertébrale qui s'allume.
Tu sais ce que ça m'a rappelé, moi? Ça m'a rappelé un film, vu que tu es très cinéphile, un très mauvais film. Ça m'a rappelé Lost in Space, le film.
Je suis allé le voir au cinéma à l'époque.
Et voilà, et moi aussi. Et te souviens-tu de cette scène?
C'est le mec
Chandler. Chandler qui déploie.
C'est ça, le mec de Friends.
De Joey, pardon.
Mais Joey, oui.
Non, pas Matt LeBlanc.
Qui était super classe.
Mais je me rappelle aussi qu'il y avait une petite créature. Il y avait des choses très spacey. Il y a des films.
Mais il était pour enfants. Pour mauvais enfants. Enfants passage. Enfants à punir.
En fait, je pense que je vais rigoler toute la soirée en imaginant des CRS avec une barre de vie derrière le dos.
C'est ça.
Du coup, voilà.
Et le visage de Chandler.
Mais bienvenue dans mon imagination. Alors que je disais, dans Resident Evil, quand on y jouait. Pour revenir à ça, ce que j'aime entendre, c'est le bruit de la machine, en fait.
Et le nom. Et n'oubliez pas qu'on a les Resident Evil, c'était meilleur intro.
Ah, le bruit de la machine à écrire. Pour ceux qui sont en live, le bruit de la machine à écrire qui
nous,
qui nous
expliquait toute l'histoire, enfin le début de.
Qu'on retrouve après dans les suivants, il faut trouver un ruban pour faire fonctionner
Au pire, on peut couper les micros quelques instants et faire écouter au live un petit peu cette intro absolument magnifique.
Hey! Come here!
C'est du génie, c'était trop bien.
Non, c'est vrai qu'on parlait d'intro, Resident Evil. Resident Evil. Quand t'avais le son de chaque épisode qui sortait avec le nombre, c'était fou. Moi, je me souviens l'épisode du 2, Resident Evil.
Mais l'ont plus fait après. Il y a Soul Calibur qu'il faisait aussi. Ouais. Soul Calibur.
En fait, il y a pas mal de jeux Namco.
Je voulais en parler justement de Soul Calibur, notamment de Soul Edge, l'intro de Soul Edge. Est-ce que tu peux rechercher l'intro de Soul Edge?
Tekken 3.
Non, l'intro de Soul Edge.
Est-ce qu'il y a moyen de le chercher sur YouTube? Soul Edge intro.
Mêlée, mon gars. Intro animé de jeu de baston, mêlée.
En attendant, je vais parler d'une autre intro qui m'a marqué. J'avais 8 ans, je me baladais dans ce qu'on appelait encore des mammouths à l'époque. voilà, ce fameux magasin.
C'était en 1960.
C'était à l'époque. Et j'avais acheté une PlayStation il n'y a pas longtemps. Et là, apparaît devant mes yeux une Nintendo 64.
Oh, je crois que t'avais dit un coup gardé.
À la fois fasciné par l'objet et par ce qui tournait, c'est-à-dire Mario 64. Voilà, tu vois la tête de Mario, tu te dis, tu lances, j'appuie sur Start, et là, je vois un monde en 3D, un truc qui n'existait pas à l'époque, une caméra qui tourne autour de toi, qui passe dans tous les sens.
Un monde ouvert en 3D,
ouais. Un tuyau arrive, Mario sort du tuyau, le jeu te dit, démerde-toi, tu vas où tu veux, et là, honnêtement, Je pense que j'ai revendu ma PlayStation 10 jours après pour me payer ce qui a été un des plus gros chocs de ma vie de gamer, je pense. C'était cette intro de Mario 64 qui était parfaitement calibrée, de même que Zelda 64, le premier.
Et tu oublies aussi Mario, c'était aussi quand tu allumais le menu, tu avais la tête de Mario en 3D et tu pouvais modifier.
Tu pouvais la modifier.
Tu pouvais allonger le menu, en fait, tu pouvais jouer à un objet 3D pour te montrer, regarde notre machine, elle a ça dans le ventre, mec. Et ça, je trouvais ça, c'était une démonstration. Mais...
Je trouve ça magique quand tu parles de Mario parce que les anecdotes sont ridicules, mais dans mes jeux glauques. Il y a BioShock.
Oui.
J'avais ma télé qui était et mon console qui était plutôt en hauteur à ce moment-là. Du coup, j'étais toute ma hauteur pour remettre la galette dedans. Et je sais que la personne qui vivait avec moi est revenue 2 heures plus tard et m'a dit « Tu ne t'es toujours pas assise. » J'étais toujours debout à jouer parce que...
Putain,
rapture, ce côté art déco steampunk complètement barré.
L'intro du premier BioShock où on est dans le phare. On descend, etc. Quand tu vois la ville qui apparaît avec un petit texte qui t'explique ce que c'est, et tu vois la ville qui apparaît, tu ne sais pas ton personnage est amnésique. Enfin, tu sais rien, tu viens d'avoir un accident d'avion, tu ne sais pas qui tu es.
Il y a des milliards de litres, de tonnes,
BioShock, c'est une excellente intro parce que ça te met tout de suite dans un monde nouveau. Et pareil, un autre jeu, l'autre, c'est BioShock Infinite, même si le jeu a ses défauts.
L'intro est cool.
J'ai dû recommencer peut-être 10 fois les 25 premières minutes du jeu. Parce que on va dans les airs, on voit la ville et de début on se bat pas, c'est à dire qu'on a toute une phase de 10-15 bonnes minutes où on voit la ville de Columbia avec ses habitants qui marchent, qui veulent tabasser un noir, etc. Donc c'est une ambiance assez sympa à échalouper. Ça s'est fait,
c'est sympa de droite,
voilà, c'est cool de droite. L'ambiance est géniale parce qu'on a un spectacle, parce que c'est jour de fête, donc
t'as pas trouvé ça trop rabâché? Moi j'ai trouvé que ça martelait un peu la gueule.
C'était cool alors que
je trouvais le premier BioShock un peu plus envie d'aventure, en fait.
Ce que j'aime bien, c'est que j'aurais aimé, moi, limite, que le jeu Infinite, on se batte jamais.
Ouais, ça aurait été marrant.
Voilà. Qu'on se batte jamais, qu'on fasse une espèce de jeu d'enquête et qu'on se batte jamais, qu'on voie des gens et qu'on essaye de découvrir, qui est de délivrer Elisabeth et tout ça.
Moi, Infinite.
Voilà. Mais le 1 est indiqué ça au final, parce que tu te sauvais d'un avion, t'étais dans la flotte au milieu des flammes,
ça boucle.
Tu voyais
ça
quelqu'un
boucle. Ça boucle,
dans une partie cinématique où tu ne jouais pas. qui essayait de rentrer dans l'espace où il était confiné. Donc ça aurait pu être ça, continuer à faire.
Mais voilà, Bioshock Infinite, l'intro.
Véronica tout le long.
Une grosse intro de jeu vidéo.
Moi je retiens plutôt la fin finalement que l'intro.
Ah, moi je préfère l'intro.
Du coup, petite pause, est-ce qu'on a l'intro de Soul Edge ? En fait, c'est l'intro que j'écoutais en boucle.
Ah, mais non, mais c'est une des meilleures OST.
C'est une des meilleures OST, de, je pense, de l'univers.
Allez, on met ça pour tout le
monde. On met ça pour tout le monde.
Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold.
C'est du bonheur.
C'est du bonheur.
C'est du bonheur absolu.
C'était. Ouais.
Sushi, est-ce que d'autres intros
Est-ce que t'as des trucs qui sont revenus là ?
Ouais.
Ça y est.
Ouais.
D'abord. Non, mais j'allais dire justement comme avait dit Tom, voilà. Dead Space.
Dead Space.
C'est un très très bon début.
On est content, mais content que t'as arrêté ton travail à la poste, parce que ça t'a quand même fait du mal. Ça t'a quand même abîmé. Hein.
La poste, elle savait une bonne intro ou pas ?
C'est... J'ai vu comment je m'appelle.
C'est ça. Ouais.
Alors, je vois marquer Azura's Wrath.
Oui, parce que le début d'Azura's Wrath, c'était. Alors, j'en ai déjà parlé. J'ai fait ma chronique, j'essaie de le caser à chaque fois que je peux en parler. Mais l'intro, c'est quand même une planète qui se fait détruire par des êtres gigantesques. Et on commence, donc le héros Azura, sur un vaisseau spatial gigantesque, on dirait le Destroyer dans Star Wars. Et on fonce sur la planète pour les tuer un boss géant qui dévore la planète Terre et qui fait à peu près la taille de la Lune. Voilà. Donc ouais, en termes d'intro qui te pose, coucou, je vais être épique du début jusqu'à la fin, on n'a pas trouvé rarement mieux dans l'épique. Et sinon, un autre jeu, comme ça que j'aurais fini. Un autre jeu que j'ai parlé, c'est The Suffering. Je vous ai déjà parlé, fait une chronique dessus, jeu PS2. L'intro est très intéressante parce que, en fait, on joue le personnage de Torque. Et en fait, on est emmené dans une prison. Et on voit les autres prisonniers qui sont autour de nous, qui sont tous des condamnés à mort. Et ça met une ambiance directe parce que tous les autres sont des vrais salauds. Et on sait pas trop si notre personnage en est un ou pas. Donc il y a une certaine. Comment ça s'appelle ? Ambiguïté. Voilà. Et tout d'un coup, la prison, les démons vont arriver. Mais en fait. Tout est en off, c'est-à-dire que comme on est dans une cellule, on voit pas forcément, on a que le son. Et même quand on sort de la cellule, qu'on commence à jouer durant les 15 premières minutes, on voit aucun monstre. Et donc pour moi l'intro, c'est pour ça que j'ai joué au jeu aussi, et qui m'a autant scotché, c'est que cette intro était très bien, parce qu'elle fait vraiment le côté survival horror qui a disparu, qui était voilà, au détriment du côté d'action, alors que c'est un jeu plus d'action.
Que j'ai fait il y a pas longtemps, presque en grande partie,
c'est bien.
Au final, à part Dead Space, on n'a pas parlé beaucoup de Space Opera.
Ah bah là, on peut parler de Super Metroid du coup.
Parce que là on s'en prendrait plein la tête.
L'intro de Super Metroid avec le combat que tu peux parler.
Super Metroid, c'était incroyable comme intro. C'était pour de la Super NES.
C'était magnifique. Aussi bien la musique d'introduction avant avec le petit texte que le début du jeu avec la fuite de la station, etc. Ouais.
Super, super bien. En bonne intro, t'entendre parler de The Suffering, ça m'a fait repenser à Arkham Asylum, qui a une super intro.
Oui, tu conduis le Joker.
On a même le Joker en prison et on voit bien qu'en fait, on s'est un peu fait piéger.
Et on découvre le niveau. Ce qui est bien, c'est qu'on découvre aussi les niveaux qu'on va traverser, des endroits qu'on va traverser dans le jeu. Ça, j'aime beaucoup les intros comme ça. Là. L'intro la plus célèbre, c'est celle de Half-Life.
Oui. J'allais parler d'Half-Life et de MGS2.
Voilà, ouais, Half-Life, tout le monde s'en rappelle, mais il se passe rien en fait.
Oui, c'est ça.
C'est quand même un peu chiant, quoi. Je préfère largement l'intro d'Half-Life 2 qui t'a commencé.
Oui, mais c'était un des premiers jeux qui permettait d'avoir tout un truc où tu jouais pas vraiment. C'était un peu interactif. Finalement, c'était que les caméras, mais qui t'emmenait dans un univers, quoi.
Est-ce qu'on peut vous parler de l'intro de MGS2 qui est quand même un maître étalon du genre. MGS2, alors comment ça commence ? L'intro dure environ 2-3 heures. On peut la première fois, ça dure au moins 2-3 heures. On voit le héros qu'on avait tous adoré, Snake, arriver sur un tanker sous la pluie. Voilà, c'est super classe, le jeu est magnifique, les mouvements sont incroyables. On joue 1 heure, 2 heures, on prend des photos d'un Metal Gear. Ça s'arrête là et on retrouve un individu masqué qu'on imagine être Snake quelques minutes plus tard. Il garde son masque quand même assez longtemps, histoire de faire durer le suspense. Et là, il enlève son masque et surprise, ce n'est pas Snake.
C'est ça.
C'est un blondinet asexué qui s'appelle Raiden et que tout le monde a détesté d'ailleurs à l'époque parce que personne n'avait compris d'ailleurs ce qui se cachait derrière. Et ça a été à la fois une des plus grosses trahisons de l'histoire du jeu vidéo.
Et une très bonne surprise. Et une des seules vraies surprises.
Et en plus, ça avait été... Alors, même, on revient même à l'époque où Internet ne dévoilait pas tout, tous les screens du jeu qui avaient été diffusés, c'était avec Snake dans toute la deuxième partie. Donc, aucun joueur, en achetant le jeu, ne s'attendait à ça.
Ouais, voilà. Directement. C'était vraiment un truc de dingue.
C'était une Kojima mascarade.
Ouais, un petit peu. Mais voilà. moi, en fait, j'ai eu un peu le même côté comme quand, genre... Tu manges et tu crois que tu vas manger une patate et en fait c'est du céleri. Tu sais, tu vois, ça ressemble vraiment, tu mets dans ta bouche et t'es genre, c'est du céleri. Voilà, moi ça m'a fait vraiment cet effet là, donc voilà, manger du céleri, jouer à MGS2.
Cool. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, on est déjà 55.
Quiz.
On va faire un quiz. On va faire un quiz.
Quiz.
Parti pour le quiz, on a aussi une musique de fond pour le quiz qui sera très bien, une musique québécoise.
C'est quoi le thème du quiz ?
Le thème du quiz cette semaine, ce sera donc les point and click.
Ah bah Guillaume n'est pas là, tant mieux pour lui.
Vous pouvez tous jouer. Comme d'habitude, vous levez la main, vous dites votre prénom, je vous autorise à parler et vous me donnez votre réponse.
Génial.
Donc, il y a 10 questions, on va dire un point par réponse, hein. on va se faciliter un petit peu la vie. Donc il faut trouver des titres de point and click, de l'époque ou pas. D'ailleurs, il peut y en avoir des plus récents. Est-ce que tout le monde est prêt ?
Oui.
Alors, question numéro 1. Qui a dit que les clowns étaient gentils ? Là, ce n'est pas le cas. Alors, si en plus vous faites équipe avec une journaliste française et que vous...
Ferdi et les chevaliers de Baphomet.
Chevaliers de Baphomet. Ça te fait un point pour toi, Ferdi.
Très grand jeu.
Blague et pirate.
Ferdi. Monkey Island.
Monkey Island, voilà, je voulais pas aller plus loin, c'était un petit peu trop simple. Question numéro 3, du jour au lendemain, tout peut changer, une graine peut te permettre de survivre à la pire des chutes.
Day of the Tentacle ?
Day of the Tentacle, oui. Effectivement, ce jeu où tu voyages à travers une cabine de WC, à travers le temps.
C'est chaud,
génial. Il y a un intello et une stripteaseuse qui sont traqués par la mafia.
The Getaway, non ?
Non.
C'est pas The Getaway ?
Non, c'est Runaway.
C'est Runaway.
Runaway, oui, voilà, c'est pas Getaway, c'est Runaway.
Runaway.
Allez, on lui accorde un point à Tom.
On met le temps aussi, parce que c'est toi qui as dit le vrai nom. Voilà.
Alors, quand je vous dis Bruno le grand pied et Trixie la femme girafe.
What ?
Putain, ça, je l'ai pas.
Comment il s'appelle ? C'est les jeux récents, c'est les mêmes qu'on fait Runaway.
Non, je l'ai pas fait. Ah oui, si, j'ai lu le test, mais j'y ai pas joué.
Oui.
Il y a une autre partie à la phrase, mais j'attends que vous réfléchissiez un petit peu.
Ouais.
Poursuivi par des animaux, un chien.
Je déteste.
C'est un lapin.
Sam & Max.
Sam & Max, effectivement.
Sam & Max, c'était pas ça que je pensais.
Moi non plus.
Alors, une avocate new-yorkaise va en France pour retrouver un héritier afin de racheter une vieille usine d'automates. Ça, c'est la première partie.
C'est Spirou et Fantasio.
C'est pas du tout ça.
Cyanure.
Mais un événement inattendu va arriver. Ça ressemble un petit peu à un téléfilm de M6.
Oh, Derek meurtre dans un parterre de fleurs.
Non plus.
T'aurais dû le mettre dans le métier.
On aurait dû.
D'ailleurs, j'hésite à regarder.
Il y a un épisode qui est sorti il y a pas longtemps.
Comment ça s'appelle alors ? C'est Siberia ?
C'est Siberia.
Ah, c'est ça le plot de Siberia.
C'est ça le plot de Siberia.
Je sais pas, c'est vieux.
Question, là ça va aller vite. Question numéro 7. Et si même le jour de votre mort, vous deviez rencontrer un démarcheur pour qu'il vous vende votre.
Grim Fandango,
pour qu'il vous vende votre voyage dans le monde des morts. Si tu es riche, tu vas plus vite dans le monde des morts. Et si tu es pauvre, tu dois y aller à pied avec une canne qu'il te fournit d'ailleurs.
Jeu exceptionnel avec un exceptionnel doublage divin.
Incroyable,
je l'ai pas fait.
Il y a un remaster qui est très très bien, vraiment fait-le. Et si vous enquêtiez en jouant Ray McCoy dans une aventure parallèle au film du même nom ?
Ray McCoy.
Oui, bien sûr.
Non.
Blade Runner,
effectivement. Il y a eu un point de clic, Blade Runner.
Et qui était cool parce que tu pouvais faire le test.
Oui.
Et en fait, c'est toi qui donnais la propre réponse. Et du coup, tu pouvais dire non, c'est un réplicant, mais tu savais pas en fait. Il ne disait pas si c'en était un ou pas. C'était hyper stylé.
Question numéro 9. Aurez-vous assez de sympathie pour donner votre dernière canette de bouffe à un chiot, ou est-ce que vous préférez crever de faim?
The War Is Mine.
This War Is Mine?
Non.
C'est l'autre truc de cul de la Première Guerre mondiale.
Non, c'est pas
j'ai
ça.
J'ai pas aimé.
C'est quoi ça?
C'est pas ça.
La fille strange?
Non. Je l'appelle pas comme ça.
Le nom de l'héroïne, c'est aussi le nom d'un fruit.
Un jeu où l'héroïne s'appelle Orange?
Mario et le lapin crétin?
Peach? Ah oui, Mario et le lapin crétin.
Non plus.
Le nom d'un fruit, Apple, non. Banana? Les Mignons?
C'est quand même une série assez connue dans le... c'est pas vraiment un point and click, mais c'est
Walking Dead, ce genre de jeu.
C'est The Walking Dead, c'est Clementine.
J'ai fait que la saison 1.
Voilà, c'était dans l'intro entre les deux. Voilà,
entre les deux. Michonne, là
Non, c'est 400 Days.
Ah, ok.
Voilà. Réussirez-vous à sauver la ville d'Ankh-Morpork?
Pierre dit, Discworld noir.
Ouais. Discworld, ouais, tout simplement.
Je savais pas qu'ils avaient fait un point and click Discworld.
Alors je crois que Sushi a gagné, largement.
Ouais, Sushi a gagné, largement. Ouais.
C'est Sushi.
Ouais, c'est Sushi.
Je pense qu'on peut t'applaudir ce soir. Félicitations. Ouais. C'était vraiment une superbe émission.
Que j'y joue tous les soirs.
Alors est-ce qu'on a conseillé une lecture cette fois-ci? Non, pas cette fois-ci.
Une lecture de Ghibli.
Une lecture, du coup, on vous conseille, puisque ça ne fait pas partie du jeu vidéo, on vous conseille Calvin et Hobbes, cette magnifique BD.
C'est la meilleure BD.
Ceux qui n'ont pas lu, voilà. Et ce qui est bien, c'est pour tous les âges.
Voilà, vous pouvez le lire à 9 ans et le relire à 28 ans, et ça vous fera un gros mind blown dans la tête, parce que c'est du génie.
Poésie, philosophie.
C'est génial, honnêtement, c'est génial. Je me le suis fait tatouer il y a pas longtemps, du coup, j'adore ça.
Tu pourras poster ça sur la page Facebook, par exemple.
On pourra poster éventuellement des liens, pas vers Descartes.
Julien compte se faire tatouer chaque livre dans lequel on va parler.
Okay. Exactement, ça va être un peu long.
Si l'édition Peace and Love veut faire tout de suite un
dans deux semaines, Julien on vous parle de l'autobiographie de Steve Jobs.
du coup, sérieusement, dans deux semaines, c'est la 50e. On vous prépare un truc un petit peu spécial.
L'émission de l'année.
Vous êtes près de la période d'Halloween, donc réfléchissez bien à ce qui pourrait se passer. On vous dit à dans deux semaines. On vous souhaite bonne journée et à bientôt. Des bisous. Salut.
Des bisous. À bientôt.
Bon appétit.
À bientôt le live. Dites bon, dire au revoir au live.
Au revoir le live.